Pompidou, Éric Bataillon.
Bonjour. En juin 2013, le printemps révolutionnaire en Syrie est en train de tourner à l'hiver islamique. Les espoirs suscités par la rébellion laïque et démocratique sont douchés par l'irruption de groupes combattants surprises, financés par les Émirats du Golfe et renforcés par une multitude de volontaires étrangers. À Raqqa, un flic kurde communiste désabusé va tenter de résister à la vague islamiste au cœur même du dispositif de Daesh. Une enquête policière passionnante aux multiples rebondissements, écrite par Yannick Laude, conseiller en communication auprès d'un ancien Premier ministre belge et actuel député européen. Meurtre à Raqqa, chez Albin Michel, un livre et surtout une émission que vous pouvez réécouter sur notre site www.rfi.fr ou podcaster sur notre appli Pure Radio. Bonjour Yannick Laude.
Bonjour Éric Bataillon.
Nous sommes en duplex avec vous depuis Bruxelles, où vous vivez et travaillez en tant que conseiller en communication au Parlement européen. Et vous publiez chez Albin Michel « Meurtre à Raqqa », votre premier roman. Car c'est un premier roman, Yannick Laude, et plus particulièrement un policier. Pourquoi avoir choisi Raqqa comme lieu de l'action de ce roman ?
Plus globalement, je me suis intéressé au conflit en Syrie assez tôt par rapport aux médias, en fait. C'est-à-dire que, travaillant au Parlement européen, effectivement, je suis le porte-parole de Guy Verhofstadt, qui est le président du groupe libéral que, justement, En Marche doit joindre, et changer de nom. Et il en avait reçu, quasiment au moment de l'action du livre, au mois de mars 2013, le général Selim Idriss, qui était à l'époque le chef d'état-major de l'ASL, et il avait avec lui toute une équipe de jeunes qui m'avaient frappé et donné une image de la révolution syrienne intéressante. Il y avait des femmes qui n'étaient pas voilées, il y avait un jeune palestinien qui lui servait d'attaché de presse. On voyait une société civile intéressante, et je dois dire que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce qui se passait en Syrie. Et puis, le deuxième élément, ça a été la rencontre, deux ans plus tard, par hasard, avec une belgo-algérienne à Bruxelles, mère célibataire, en fait veuve, j'ai découvert, et en rupture familiale et religieuse. Et son mari était parti en Syrie, elle avait refusé de le rejoindre, ça a été l'occasion de cette rupture avec la religion et sa famille, et ça m'a aussi beaucoup appris de l'intérieur, de ce qui se passait dans la population musulmane et dans la population arabe.
Oui, on va y revenir tout au long de cette interview, la description de Raqqa, qui est une ville très particulière, mais votre personnage central, lui, c'est un policier dont la personnalité est plutôt particulière. Qu'est-ce qu'il a de spécial ?
Ah bah, il a de spécial que c'est un Kurde déjà, donc c'est une minorité très spécifique en Syrie, assez importante, surtout dans cette région, hein. Et il est communiste. Il faut savoir que le Parti communiste syrien est allié finalement du Parti basse socialiste syrien depuis les années 60, depuis toujours. Donc il y a cette spécificité d'être à la fois kurde et communiste et d'être pris dans la révolution syrienne. Il est à Raqqa, et donc dans ce moment, c'est l'action du livre, dans ce moment où la révolution syrienne est captée à Raqqa par la montée de l'État islamique.
Alors justement, ce policier, il a quelques points de ressemblance avec le héros de Philippe Kerr, Bernie Gunther, c'est-à-dire un policier qui est malgré lui embringué dans une histoire qui le dépasse peut-être, mais dont il va se servir pour finalement agir dans ce qu'il semble être pour lui le meilleur pour la population.
Tout à fait, son histoire personnelle, j'essaie de faire un personnage qui colle un peu à l'histoire de la Syrie et pourquoi la Syrie a dérivé comme ça. C'est quand même une dictature au départ, hein. C'est quand même une très violente dictature. Et son père a été victime du régime et lui-même du coup, est très désabusé, ne croit plus en grand-chose, et le suit notamment, il y a une histoire familiale aussi derrière, il est marié, sa femme est très engagée dans la révolution, lui ne l'est pas vraiment. Et le hasard des choses, c'est que son beau-frère est lui engagé du côté du front al-Nusra, hein, qui était une des composantes de la révolution syrienne, composante islamiste, un djihadiste même, comme c'est les gens d'Al-Nusra qui vont constituer le gros des troupes de Daesh assez rapidement, en tout cas sur Raqqa. Du coup, Merwan Millet, mon héros s'appelle Merwan Millet, se trouve propulsé dans les hautes sphères de l'État islamique par le biais de son beau-frère. Son beau-frère le connaît bien, mais il lui fait confiance parce qu'il le croit justement en dehors de toute contingence politique, puisque Merwan manifeste depuis plusieurs années son désintérêt de toute façon pour les affaires politiques.
Mais Yannick Laude, en 2012, la ville de Raqqa, l'ancienne Héraclion, est encore acquise au régime de Bachar el-Assad. Que s'est-il passé pour qu'elle bascule si rapidement ?
Il y avait un vrai mouvement, et j'en parle dans ce livre, hein, notamment à Raqqa, il y a une association politique qui s'appelle Hakuna, un autre droit, qui est né, dont le fond de commerce était les professions intellectuelles, évidemment, des professeurs, des avocats, des universitaires, qui a trouvé une base sociale au moment où la Syrie est entrée en ébullition. Raqqa est une ville très tranquille pendant très longtemps, et d'ailleurs, la brigade des révolutionnaires de Raqqa, dont je parle, elle n'a pas du tout évolué de djihadiste. Aujourd'hui, quand on parle des forces démocratiques syriennes, kurdes avec des alliés arabes, c'est eux, notamment, c'est ces gens de Raqqa. Donc il y avait une vraie volonté à Raqqa, large frange de la population, d'avoir une révolution tranquille, si je puis dire.
Est-ce que Raqqa est une ville plus religieuse que les autres en Syrie ?
C'est une ville qui est réputée plutôt pieuse, mais pas salafiste. C'était pas la base de la ville. Donc il y a eu un énorme apport étranger. Quand je dis étranger, je ne veux pas parler d'Européens, hein, mais d'autres pays arabes dans la révolution syrienne, beaucoup de Saoudiens notamment, qui ont apporté avec eux ce qu'on sait, quoi.
Alors, malgré tout, courant 2013, on peut dire que le pouvoir, finalement, est assez partagé à Raqqa. Il y a, bien entendu, l'ASL laïque et révolutionnaire. L'ASL, précisons que c'est l'armée syrienne libre, avec un certain nombre de composantes islamistes ou non-islamistes, d'ailleurs.
Exactement, exactement.
Il y a aussi des islamistes dits modérés, vous les décrivez, ce sont apparemment les fils du prophète, où il y a encore, évidemment, Jabhat al-Nusra, Daesh, et puis les brigades des étrangers. Voilà, tout ce petit monde essaye de diriger la ville.
L'ASL elle-même, une association étrange, parce que la brigade des petites filles du prophète est une brigade de l'ASL. Hein. C'est une brigade qui a été créée et tenue par les frères musulmans, mais qui n'est pas al-Nusra, donc qui est opposée à al-Nusra, mais qui n'est pas encore moins Daesh, évidemment, mais qui a quand même un fond islamiste, hein, c'est les frères musulmans. À Raqqa, il y a aussi la brigade des révolutionnaires de Raqqa, hein, qui étaient quand même les plus nombreux, et sont venues toutes sortes de brigades, parce qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup moins centralisé que ça a été pour la suite. Il y avait beaucoup de courants, en fait, différents qui pouvaient s'affronter dans la ville. Effectivement, au moment de l'action du livre, Daesh va tenir la ville finalement définitivement qu'en janvier 2014. Il y aura pendant ces 6 à 7 mois une résistance des autres factions et une résistance de la population assez importante à Raqqa. Daesh ne s'est pas imposé si facilement, je crois que je le montre dans ce livre, et ça va continuer. Évidemment, ils finiront par être écrasés, ce qui est assez terrible quand on connaît la suite, mais il y a eu une vraie résistance de la population raqqaoui jusqu'à janvier 2014.
En avril 2013, il y a un geste fort pour les djihadistes islamistes que vous pointez dans le livre, c'est le renversement de la statue d'Al-Battani. Pourquoi cet événement particulier ?
Parce que Al-Battani est un savant du 9e siècle, comme beaucoup des savants musulmans de cette époque. Ils avaient beaucoup moins de prévention à l'égard de la parole de Dieu, si je puis dire, et cherchaient vraiment avaient des démarches scientifiques. Et évidemment, même si je viens de dire que la ville était partagée, il y avait quand même des islamistes à Raqqa. Et donc Al-Battani est dans le quartier de Battani, à Raqqa, et donc sa statue a été renversée par des gens qui lui reprochaient de ne pas être halal, si je puis dire.
Hein. Car il y a un mouvement démocratique et laïque qui persiste à Raqqa au milieu de l'année 2013, et ça on l'a un peu oublié finalement.
Ah oui, tout à fait, ce mouvement Hakuna, alors moi je le fais diriger, tout bêtement, je vous avais parce que je n'ai pas retrouvé qui était le fondateur vraiment, mais c'est le portrait que je fais de la personne qui est assez vraisemblable, c'est donc un universitaire qui a créé le mouvement Hakuna, notre droit, qui a eu beaucoup de succès, qui a organisé des élections, je parle des élections, hein, ils ont essayé de faire des élections quand même contre Daesh, ce qui était quand même très fort, très gonflé, mais ils ont quand même fait ça, il y a eu des manifestations, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé, malheureusement, bon, ou heureusement, parce que c'est les lois antiterroristes, beaucoup de choses ont été retirées du net, on pouvait voir beaucoup d'actions de Hakuna, de la société civile raqqaoui, on l'a très bien vu, mais c'est vrai un peu partout en Syrie, évidemment, c'est à partir de la montée en puissance totale des islamistes que la révolution syrienne est morte, en fait. C'est clair, parce que les démocrates n'avaient plus l'espace pour s'exprimer vraiment. Et à Raqqa, ça s'est joué entre le mois de juin 2013 et le mois de janvier 2014. Ça a été cette période où, petit à petit, l'opposition laïque, les gens qui voulaient faire de la Syrie un pays démocratique, sur le modèle éventuellement tunisien, ont été balayés. Et puis, par la force des choses, comme c'est des démocrates, c'est pas des grands guerriers comme des gens qui voulaient être guerriers. Et c'est bien le problème des démocrates dans ce genre de révolution. C'est aussi un des motifs de l'écriture du livre. Je crois que la révolution syrienne a une très mauvaise image, et je voulais quand même rappeler que, bon, c'est pas des méchants, c'est vraiment des gens qui voulaient bouger les choses, et je pense qu'à travers les réfugiés, beaucoup de gens ont vu ça quand même, hein. Les gens ont pu approcher des réfugiés, leur parler, voir que, voilà, c'est des gens normaux, les Syriens.
Orient Hebdo sur RFI.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI, nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Yannick Laude, auteur du roman policier Meurtre à Raqqa, publié chez Albin Michel. Yannick Laude, en quoi les batailles d'Homs et d'Alep ont changé la situation pour la ville de Raqqa ?
À partir du moment où Al-Quraish avait été reprise par le pouvoir, donc c'est un deux routiers, le régime pouvait aller sur Homs et sur Alep, c'est ce qui s'est passé. Et donc, comme le gros casernement à ce moment-là était sur Raqqa, tout le monde est parti. Tout le monde est parti, mais c'est là au moment où Daesh s'est installé. Parce que, en fait, Daesh est apparu, c'était le 8 mai, autant que je me souvienne, avec une allocution radiophonique du fameux al-Baghdadi, hein, Aboubakar al-Baghdadi, lequel a à ce moment-là déclaré que, en fait, al-Nusra, c'était en fait le faux-né de l'État islamique en Irak, une organisation qui était aussi une organisation de Al-Qaïda, et que, finalement, on allait créer l'État islamique au Levant et en Irak, c'est-à-dire en Syrie et en Irak. C'est à ce moment-là que Daesh est apparu, et ça a été une surprise, et d'abord pour Al-Qaïda, puisqu'il n'avait pas préparé son coup avec à la base en Irak, et ça a été d'ailleurs un long conflit avec al-Nusra.
Al-Nusra qui préfère être adhérent d'Al-Qaïda plutôt que de Daesh.
Tout à fait, et qui a été choisi finalement par Al-Qaïda, assez rapidement en fait, mais définitivement au mois de janvier 2014. C'est aussi une histoire qui a longuement traîné. Il y a quelques aspects idéologiques, mais enfin, guerre, c'était surtout des aspects d'hommes, parce qu'il se trouve que le leader d'Al-Nusra, Al-Joulani, était quand même lui-même une personnalité. D'ailleurs, il est toujours vivant, et d'ailleurs, il dirige maintenant le Tahrir al-Sham, qui sont encerclés en ce moment même à Idlib. Donc Al-Joulani, dont on parle peu, est aussi une personnalité importante de la guerre civile syrienne, et une personnalité très forte, qui a tenu tête à al-Baghdadi.
Une personnalité, par ailleurs, syrienne, et donc qui ne voulait pas être sous la coupe, certainement, des Irakiens. Alors, vous décrivez un discours qui est absolument incroyable de Aboubakar al-Baghdadi dans le palais du gouverneur à Raqqa. Est-ce que ce discours a vraiment eu lieu? Comment l'avez-vous reconstitué?
Alors, ce discours a vraiment eu lieu. Il a proclamé le califat un an plus tard à Mossoul. Ça devait être le 9 juin ou le 10 juin 2014. Et j'ai repris ce discours. J'ai repris ce discours en l'adaptant un peu. Mais c'est la structure du discours qu'il a prononcé à Mossoul. Et je suis bien d'accord avec vous, il est hallucinant, oui.
Et alors, dans ce discours, al-Baghdadi pointe directement les Kurdes. C'est l'ennemi public numéro un à combattre. Pourquoi?
Parce que, bon, al-Baghdadi se revendique du wahhabisme. Et le wahhabisme, la chose la plus importante pour eux, c'est le tawhid, c'est l'unicité de Dieu. Et aussi dans la façon de rendre hommage à Dieu, et en fait dans toute la liturgie musulmane. Enfin, en tout cas, qu'ils estiment devoir être la liturgie musulmane. Et donc, c'est une école, ou une secte, selon ce qu'on veut dire, qui est contraire aux écoles traditionnelles, enfin pas toutes d'ailleurs, mais enfin en tout cas à l'anafite qui est dominante en Syrie, et les Kurdes sunnites ont eux-mêmes leur particularisme très fort. Donc le wahhabisme ne peut pas accepter des particularismes, puisque tout doit être unique, c'est quand même une pensée totalement totalitaire. Les Kurdes étant par ailleurs, de toute façon, des ennemis un peu traditionnels des Arabes dans le coin, donc c'était un peu facile de s'en prendre aux Kurdes, parce que ça mobilise les Arabes, les tribus locales quand même, de s'en prendre aux Kurdes, c'était aussi habile politiquement, mais idéologiquement, le kurde sunnite, je parle même pas alors des Kurdes qui sont pas musulmans, mais le kurde sunnite est de toute façon un ennemi idéologique à abattre.
Est-ce qu'il y a une dimension nationale ou nationaliste dans cette histoire, en plus de la dimension religieuse? Daesh et les Kurdes, qui chacun veulent avoir leur territoire.
Alors, la position des Kurdes au moment de l'action du roman, elle est en pleine évolution au moment de l'action du roman, parce que quand Bachar a vu que la situation dégénérait, il a lâché le front kurde assez vite. Il leur a permis de constituer, grosso modo, ce qu'on appelle leur Rojava aujourd'hui, c'est-à-dire de prendre tout le chapelet des petites villes entre Kobané et la frontière irakienne, tout le long de la frontière turque jusqu'à la frontière irakienne, de s'installer là, en fait, parce qu'ils savaient évidemment qu'ils allaient être adversaires avec les islamistes, donc ils les allaient s'installer là. Les Kurdes, effectivement, syriens, font partie et de la mouvance du parti d'Öcalan en Turquie. Ça, c'est relativement clair. Mais je ne pense pas que, dans leur idée, je pense que c'est la survie à ce stade pour les Kurdes. Je ne pense pas qu'ils aient dans l'idée de le premier maillon du futur État kurde. C'était quand même une question de survie. Mais les questions de nationalité ont beaucoup d'importance dans la révolution syrienne. Vous l'avez signé tout à l'heure, Al-Julani, effectivement, se méfiait quand même beaucoup de Baghdadi, parce que Baghdadi, d'abord, il est irakien. Bon, ça, c'est pas encore le gros problème, mais on sait que dans l'entourage de Baghdadi, il y a beaucoup d'anciens des services de Saddam Hussein, et ça, c'était le risque, évidemment. Il y a quand même une grande rivalité dans cette région entre les deux pays. C'était un risque pour la révolution syrienne, ça c'est sûr.
Et alors justement, puisque l'on parle des influences étrangères, autre élément intéressant dans votre récit, c'est le rôle de la diaspora syrienne, notamment dans le Golfe. Apparemment, cette diaspora a eu un rôle dans l'apparition des milices islamistes, mais aussi elle a tenté, cette diaspora, d'influencer le cours des choses, notamment en fournissant de l'argent et des équipements militaires sophistiqués.
Oui, alors effectivement, au début des années 80, le père de Bachar, Assad Al-Hafez, avait fait une répression terrible contre les frères musulmans. Et il y a eu une grande partie de la population des frères musulmans, c'est une confrérie, hein, c'est un peu comme les francs-maçons, si je puis dire, donc de gens qui sont partis. Comme les francs-maçons, c'est souvent des gens qui ont c'est pas le bas peuple, c'est souvent des gens éduqués et qui ont des petits ou des gros moyens, et sont partis dans le Golfe, où ils ont été forcément bien accueillis, puisque de toute façon, les Al-Assad n'ont jamais eu une bonne réputation dans le Golfe, ça s'est confirmé avec la guerre civile, mais ça n'a jamais été des excellentes relations. Et donc, ils ont été couvés depuis quasiment 30 ans dans la haine du régime, dans la haine religieuse du régime, du Parti Basse, et leur descendance avec eux. Donc, ils ont investi beaucoup et très vite. D'abord, le Conseil national syrien, c'est une instance qui n'a pas servi à grand-chose, mais enfin, qui a eu une existence politique pendant quelques années au début du conflit, et qui existe encore. C'est le processus de Genève, autant que je me souvienne. Dans ce cadre-là, ils ont joué un rôle considérable et sans doute néfaste, enfin sans doute, à mon avis, certainement néfaste. Ça a participé beaucoup à la confessionnalisation du conflit. Forcément, c'était des Syriens qui étaient détachés justement des gens dont je vous ai parlé tout à l'heure, la société civile Raqqawi ou à Leptine ou autre d'ailleurs, ou à Damas. Il y a des gens qui espéraient dans ce pays, comme dans d'autres pays arabes, qu'on puisse avoir un régime démocratique.
Finalement, Yannick Claude, au-delà des aventures de Merwan Millet, votre héros, avez-vous d'abord cherché à raconter comment l'État islamique Daesh s'était implanté à Raqqa et dans cette région à cheval sur la Syrie et l'Irak ?
Oui, moi, c'est vraiment l'aspect qui m'a. J'ai cherché à quel moment placer cette action, et je me suis dit que c'était très intéressant parce que c'est une période de transition, si vous voulez, où on voit des gens qui avaient des espoirs, qui pensaient les avoir gagnés, parce que ça y est, ils avaient renversé le régime à Raqqa. Raqqa, c'est quand même loin de Damas, donc ils pensaient pouvoir s'organiser, faire. Il y avait des institutions municipales qui avaient été créées par l'ASL. Il y avait des même avec les erreurs dont je parle aussi, mais ils pensaient pouvoir. Et puis cette révolution était subitement confisquée par l'irruption de gens qui n'attendaient pas, en fait, et en plus rejoint par subitement par plein d'étrangers. Il faut quand même voir le choc. Enfin, à ce moment-là, c'est encore Raqqa est dominé encore par des Syriens, mais Raqqa va rapidement se vider de sa population dans les mois et les années suivantes, et il n'y aura plus que des étrangers carrément qui vivront. J'exagère, mais enfin énormément d'étrangers qui vont vivre à Raqqa. Et vraiment, je trouve que c'est une période intéressante, comme toutes les périodes transitoires, les périodes révolutionnaires en fait, où tout peut arriver. Le pire est le meilleur. Malheureusement, là en l'occurrence, ça a été le pire.
À lire de toute urgence Meurtre à Raqqa, publié chez Albin Michel, pour comprendre donc la percée de Daesh, notamment en Syrie. Merci Yannick Claude.
Merci, bonne journée.
Merci également au service technique du Parlement européen pour l'organisation de ce duplex et à notre réalisateur préféré, Mathias Gulchani. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Dans quelques secondes, le journal. ولا أم ولا عم أشكي